Bienvenue pour ce podcast Eutimia, je suis Stéphane Faure et je vous accueille aujourd'hui pour un podcast concernant le témoignage de Frédéric Fournier qui est pasteur et qui a une démarche singulière avec un engagement au cœur de la pleine conscience particulier. Il est en effet enseignant du programme MBSR tout en continuant son activité de pasteur et de pratiquant chrétien. Son témoignage nous est précieux, en particulier dans cette dynamique arrêtée dans laquelle nous nous sommes engagés dans Eutimia depuis quelque temps. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute, au plaisir de vous retrouver.
Bonjour, bonjour à tous et à tous et bienvenue dans les interviews Eutimia. Aujourd'hui, nous avons décidé d'interviewer quelqu'un qui, par son profil, nous semble très intéressant. Il s'agit de Frédéric Fournier. Frédéric Fournier est pasteur et en même temps instructeur du programme MBSR. Il s'est formé à l'IMA, avec qui Eutimia est en partenariat pour cette formation d'instructeur MBSR et MBCL. Ce qui va nous intéresser au cours de cette interview, ça va être de découvrir comment la pratique de la pleine conscience a pu s'intégrer dans son activité de pasteur, mais aussi comment dans son activité de pasteur, il a intégré la pratique de la pleine conscience. Voir que la relation entre les deux et qu'est-ce qui a pu se joindre entre les deux. Voilà, je pense que c'est une interview qui va vous intéresser. En tout cas, moi, je suis très curieux. Ben, bonjour Frédéric.
Bonjour Stéphane.
Bonjour et bienvenue dans ces interviews Eutimia. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, on est très très intéressé de pouvoir t'interviewer aujourd'hui, grâce surtout par rapport à ton activité de pasteur et ton activité d'instructeur MBSR. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, qui tu es, comment tu es arrivé à la pleine conscience et ainsi de suite?
D'accord. Alors, je suis Frédéric, je suis pasteur depuis 18 ans maintenant dans l'Église protestante unie de France, qui comprend en gros 320 pasteurs. J'ai été pasteur dans différentes villes, dans l'Ouest, dans le Nord, et maintenant je suis à Suresnes. Et une chose importante qui a beaucoup impacté mon ministère et qui m'a fait rencontrer la pleine conscience, j'y reviendrai à l'instant, c'est aumônier. J'étais aumônier pendant 4 ans au CHRU de Lille. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Sinon, je suis dans mon ministère de pasteur très intéressé par toute une partie sur le dialogue interreligieux, parce que j'ai vraiment la conviction que la réalité ultime, que moi j'appelle Dieu, qu'on peut appeler l'éveil, le brahman, enfin, qu'importe le mot, peut être appréhendé de différentes façons. J'aime être enrichi, écouter la manière dont les autres traditions, enfin les représentants, les pratiquants des autres traditions spirituelles peuvent appréhender ce réel ultime. Et donc, j'ai participé pendant 8 ans à un dialogue interreligieux dans un ashram. Tous les ans, j'ai vraiment la chance d'être invité au Festival pour la paix, dans la grande pagode de Vincennes, où il y a justement des méditations, un moment de méditation interreligieuse où chacun médite selon sa tradition spirituelle. Et je suis, et ça c'est grâce à la pleine conscience, je vais y revenir, très intéressé par les mystiques, notamment chrétiens, mais pas que, parce que je crois qu'ils décrivent une expérience de Dieu qui est finalement au-delà des mots, des concepts et des doctrines. Sinon, comment j'ai découvert la pleine conscience? J'ai participé avec un proche à une retraite chinée, donc de calme mental dans un centre bouddhiste. J'étais vraiment en quête de bien-être. C'était simplement la chose qui m'intéressait. Et c'était à une époque où j'étais vraiment en crise spirituelle. C'est-à-dire, j'étais aumônier des hôpitaux au CHRU de Lille. Et tous les vendredis, j'allais dans un centre gériatrique. Et ça m'a beaucoup remué. Ça m'a vraiment énormément remué de voir la souffrance des personnes âgées, l'abandon pour beaucoup, hein, beaucoup dans la solitude. Et du coup, ça m'a beaucoup. Alors, que fait Dieu? Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi? Enfin, bon, voilà, ça a beaucoup mouliné dans ma tête. Et pendant cette retraite, l'instructeur, qui était psychologue, qui était en plus un disciple, je crois, de Bhokha Rinpoché, a su vraiment. Trouver les mots pour les arguments pour nous motiver à méditer. Parce que personne ne peut méditer à ma place. Moi, bon, j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Et déjà, il nous a dit les modifications qu'il pouvait y avoir dans le cerveau, le fait de méditer régulièrement. Alors, moi, je ne suis pas du tout scientifique, mais pour un occidental, ça m'a beaucoup touché. Ça me dit, bah oui, tiens, si je médite, il va y avoir des changements dans le cerveau. Et il nous a lancé ce défi en disant, bah, méditez 20 minutes par jour pendant 2 mois et vous verrez si vous continuerez ou pas. Et ça, je l'ai fait. Et alors, c'était pour moi un exploit de rester 20 minutes assis sans bouger. Et il s'est passé quelque chose, c'est que je pouvais garder cette assise. Et au bout de plusieurs mois, il y a eu comme une expérience. Là, je qualifierais entre guillemets de spirituel, c'est-à-dire que toutes ces questions que je me posais, théologiques, pourquoi le mal, si Dieu est bon, pourquoi, dans le silence du calme mental, tout ça s'est évanoui. Finalement, j'ai eu la sensation d'être dans le silence, en Dieu, face à Dieu. Et que finalement tous les dogmes n'avaient pas d'importance.
Et
Et ça,
ça,
ça vraiment.
Frédéric, excuse-moi, ça s'est passé combien de temps? Tu as dit que ça fait 18 ans que tu étais pasteur. Ça s'est passé à quel moment à peu près?
Alors, moi j'étais aumônier, je fais le calcul, 8 et 2, 10, il y a 14 ans. 14 ans. Donc cette crise, je l'ai vécue un an après être aumônier. Et. On va dire cette sensation vraiment d'être en Dieu et que les dogmes n'avaient plus d'importance, et on va dire un an après. C'est-à-dire, je méditais tous les jours, et alors j'augmentais, hein, 20, 25 minutes, enfin, progressivement. Et ça a vraiment été pour moi, vraiment l'agent déclencheur qui m'a poussé encore à approfondir la méditation et à m'ouvrir sur des auteurs mystiques. Et par la suite, j'ai découvert la pleine conscience parce que bon voilà, j'ai fait chiner le calme mental, donc bah, j'ai eu envie de découvrir
Oui, parce que je voudrais rajouter que chiner, c'est un terme tibétain qui veut dire donc poser l'esprit dans un état de calme, et ça vient de la tradition bouddhiste tibétaine. Donc ça, c'est clair.
Oui, j'aurais dû
Non,
le
c'est...
préciser. Donc oui, c'était se centrer sur la respiration, compter les respirations, se centrer sur un objet. Enfin bon, c'était cela. Et après, donc, la pleine conscience. La pleine conscience, je l'ai appris auprès d'un prêtre qui était psychologue, malheureusement qui ne fait plus ses stages de pleine conscience, qui les faisait dans un cadre totalement laïque. Ça, il était vraiment réglo, hein. Il était instructeur de pleine conscience, il avait fait aussi tout un cursus. Et j'ai été, notamment, j'ai été dans un centre de Thich Nhat Hanh. Et là, ce que m'a apporté la pleine conscience, en plus là de Chine, on est dans un autre registre, c'est que. Il y a eu des instants où la réalité me semblait plus claire, plus limpide. Par exemple, je sentais la sensation du vent et ce moment qui est tout à fait ordinaire finalement me paraissait sublime. Où je voyais, je me souviens, je rentrais d'une retraite, j'étais à Paris. Il y avait une dame qui avait un foulard rouge tout à fait ordinaire. Et de voir la pureté de cette couleur rouge, qui était quelque chose de tout à fait ordinaire, ça m'a semblé sublime. Et vraiment, alors c'est par moments, hein, des petits instants, que moi je qualifierais de fraction du royaume de Dieu, quoi. C'est-à-dire l'expérience finalement du royaume de Dieu, elle n'est pas que dans l'au-delà, j'espère qu'elle sera dans l'au-delà, enfin j'en ai l'intime conviction, mais elle est déjà ici et maintenant. Ici et maintenant, quand la réalité, quand certains instants de la réalité sont vécus pleinement. Et ça a été une découverte, c'était une expérience absolument sensationnelle. Sensationnelle. Alors je ne cherche pas ces moments, ils arrivent par moments, rarement, mais ils arrivent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué.
Donc d'être vraiment présent et connecté aux expériences sensorielles, tu trouves que pour toi, ça amène cette connexion à quelque chose de divin,
D'ultime.
de Dieu?
D'ultime, ouais, d'ultime. Que moi, je qualifierais de divin, mais d'ultime. C'est ça. Et il y a une deuxième chose aussi. Alors là, ça a été plusieurs années après pratiquer de pratique de la pleine conscience. C'est l'observation des émotions. Ça a été aussi une libération parce que ça a beaucoup impacté ma vie spirituelle. C'est là, j'en viens un peu comment la pleine conscience a impacté ma vie spirituelle. Déjà, elle amène des méthodes qui n'existent, enfin moi, à ma connaissance, que je ne connais pas dans ma tradition spirituelle. Je parle de la pleine conscience, pas du calme mental et du chiné, mais de la pleine conscience qui me permettent, qui sont des outils, des chemins pour intégrer les émotions. J'explicite ma pensée. Dans les évangiles, le Christ nous dit, si tu te mets en colère contre quelqu'un, c'est comme si tu le tuais. En gros, quand tu l'insultes, c'est comme si tu le tues. Ou Saint Paul, dans ses lettres, dit, ne te couche pas sur ta colère. Eh ouais, mais quand j'ai la colère, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand je suis en colère? Et là, alors bien sûr, je peux prier, je peux. Mais la pleine conscience est vraiment un outil. Qui reconnaît la colère, par exemple, je parle de la colère, hein, sans la renier, dire qu'elle est là, et de vraiment l'accueillir, l'accepter sans lui donner libre cours, mais vraiment de l'accueillir et finalement de l'observer de manière neutre, voire bienveillante, mais avec en vis-à-vis. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça me permet de mieux vivre finalement je veux dire, mon éthique, une éthique chrétienne et une éthique humaine, tout simplement, je dirais de manière plus large. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très. Pour moi, c'était un vrai enrichissement.
Donc ça a vraiment été la relation, comment tu rentrais en relation avec l'émotion elle-même, qui changeait totalement la perspective que tu
Ah,
pouvais en avoir.
totalement, totalement. Avant, je luttais contre. Je luttais contre la colère, je luttais contre la peur, je luttais contre la tristesse. Voilà, peut-être les trois émotions, moi, qui m'habitent. Et là, c'est de dire, mais non, ne lutte pas contre, mais simplement accueille et observe. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de peur, plus de tristesse. Non, pas du tout, mais justement, je l'accepte. Et ça, c'est extrêmement libérateur. Libérateur dans le sens, je n'en suis pas libéré, c'est pas ça. Mais en tout cas, je les vis de manière beaucoup plus pacifiée. Donc ça, ça a été vraiment un grand, grand, grand trésor que m'a apporté la pleine conscience et que j'intègre. Ce que m'a apporté ensuite la découverte de la méditation de manière plus générale, c'est que ça, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi l'ultime, le divin, Dieu, s'expérimente essentiellement dans le silence, et pas dans des définitions.
Donc pas dans le cognitif, pas dans des pensées, des concepts, mais dans l'expérience du silence, de la présence.
Le cognitif, finalement, pour moi, ne sert qu'à mettre des mots sur une expérience, ou au mieux, le doigt qui montre la lune. Faut pas regarder le doigt, faut regarder en direction du doigt. Donc ça, c'est pour moi, ça c'était... Et donc, de découvrir tout un pan qui existe dans la spiritualité chrétienne, qui est ce qu'on appelle la théologie apophatique, qui est de dire on ne peut rien dire de Dieu, finalement. On ne peut rien en dire, on ne peut en parler que de manière négative. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela.
Ce qui est très intéressant, parce que dans la tradition bouddhiste dont on vient, pour parler de la nature de Bouddha, donc de l'éveil, on utilise aussi la négation.
Ouais. Voilà.
C'est très, très intéressant, c'est que... Comme tu le dis, voilà, à partir du moment où il y a le doigt qui pointe vers la lune, est-ce qu'on regarde le doigt et qu'on définit le doigt, ou est-ce qu'on regarde vers la lune? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va décrire?
C'est une expérience.
Voilà.
C'est une expérience. Et du coup, moi, ça m'a poussé à lire des auteurs mystiques comme Maître Eckhart, hein, que je n'aurais jamais lu avant si je n'avais pas médité. Alors, c'est extraordinaire. Quand par exemple, là, il ne dit pas ce que Dieu est, il a cette phrase absolument, je crois qu'il faut méditer pour vraiment en goûter toute la saveur. Il dit « Dieu n'est pas bon ». Moi, je suis bon, mais Dieu n'est pas bon. Mais oui, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'on ne peut pas définir la bonté dont on a l'expérience d'un point de vue humain, collée sur le divin. Donc c'est...
Oui, c'est que la définition de la bonté, c'est quelque chose de totalement humain, dans le mondain.
D'accord. Donc, pour moi, ça a été vraiment... j'ai pu lire, je me suis intéressé à... Je m'intéresse à des mystiques comme Maître Eckhart, Jeanne Guyon, qui invite véritablement à ce qu'elle appelle l'oraison, c'est-à-dire la prière totalement silencieuse, même en l'absence de mots. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis, des textes que je n'aurais pas lus autrement, des évangiles apocryphes. Je pense à l'évangile de Thomas, où il y a vraiment des pompes avec la méditation. Je pense à une parole de l'évangile de Thomas attribuée à Jésus, qui dit « Mais n'attendez pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est là, mais vous ne le voyez pas. » Et ça, la méditation... permet de ça met des mots sur ce que je peux vivre à certains moments dans la méditation. C'est que le royaume de Dieu, il est ici et maintenant quand je suis pleinement présent.
En rapport avec le foulard rouge.
En rapport avec le foulard rouge de tout à l'heure.
La présence la pleine présence, la pleine conscience dans l'expérience sensorielle.
Ouais. Donc ça m'a vraiment permis d'approfondir ma vie spirituelle, et puis de m'intéresser aussi aux méthodes de méditation chrétienne. Je vois pas de... Alors, qui sont plutôt de l'ordre, je dirais, du... C'est un raccourci que je fais, mais de l'ordre du calme mental. Par exemple, il y a un écrit mystique, pareil, que j'aurais jamais lu si je n'avais pas médité, qui est le nuage de l'inconnaissance, qui dit, voilà... comme Moïse n'arrivait pas à voir sur la montagne Dieu, il y avait un nuage devant lui, toi tu ne peux pas voir Dieu, il y a un nuage d'inconnaissance qui te sépare, tu ne peux pas comprendre Dieu, mais tu peux percer ce nuage. Alors il dit par l'amour que tu enfermes dans un mot très court, une seule syllabe. Alors en anglais, puisque c'est un écrit anglais, je crois du 14e ou 15e siècle, God ou Love, bah, tu le répètes, et à chaque fois que tu as des pensées qui viennent, hop, tu répètes ce mot, qui sont comme un bouclier contre les pensées. Bon, on est dans une méthode de calme mental, là, hein, où vraiment on essaie d'apaiser le flot des pensées pour percer ce nuage de l'inconnaissance.
Oui, une possibilité aussi de diriger les pensées, ou en tout cas de j'aime pas le mot contrôle, mais de retrouver une forme de stabilité au milieu de toutes les pensées. D'accord. Voilà. Okay.
Et voilà, j'ai pu redécouvrir, je ne connaissais pas, moi, les Pères du désert, qui invitent, par exemple, je crois que c'est Jean Climac, j'en suis pas sûr, oui, c'est Jean Climac, c'est ça, Donc les pères du désert, en deux mots, ce sont les premiers moines chrétiens qui trouvaient que les villes étaient vraiment trop bruyantes et qu'allaient vivre dans le désert. Alors je ne sais pas ce qu'ils diraient aujourd'hui. Donc c'était en Égypte et en Syrie. Et il y en a un, Jean Climat, qui dit, bah voilà, quand tu fais des prières trop longues, ça disperse le mental. Non, non, un seul mot, Jésus. Et puis tu le cales sur le souffle aussi. Ah, c'est vraiment, pour moi, ça a été extraordinaire de redécouvrir des méthodes de méditation qui sont plutôt de l'ordre du calme mental, pas de la pleine conscience, mais en tout cas du calme mental. Donc ça, c'était vraiment, ça a été tout ça grâce j'allais dire, à la méditation, à la découverte de la méditation et de la pleine conscience. Et puis, il y a une dernière chose aussi, là, c'est moi m'a apporté la pleine conscience, la méditation, cette découverte des chemins, des moyens pour développer l'amour et la compassion. Mon maître Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dis, bah oui, il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres. Ben oui, mais des fois, j'ai pu être dans la détestation de moi-même. En disant, mais ce que j'ai fait, c'est pas terrible. Oh là, ce que j'ai fait à telle période de ma vie, c'est pas terrible. Et toutes ces méthodes d'autocompassion, de compassion, vraiment me donne l'expérience de l'acceptation de moi-même avec mes qualités et mes zones d'ombre que je peux avoir, et du coup de pouvoir aussi développer cette compassion pour les autres. Donc je trouve ça aussi, sont des méthodes qui me permettent de nourrir ma vie spirituelle.
Justement, c'est intéressant tout ce que tu viens de nous dire là, parce que on voit à quel point, et c'est pas uniquement dans la tradition chrétienne, on le voit dans la tradition hindouiste, bouddhiste, taoïste, enfin dans beaucoup de traditions, hein, même dans l'islam, à quel point la méditation, peu importe la forme qu'elle prenne, mais a une importance et même cruciale dans l'expérience spirituelle. Par rapport à la connaissance livresque et l'expérience. On va avoir prochainement aussi un intervenant qui, lui, est plus branché dans tout ce qui est la philosophie antique et qui, là aussi, va montrer à quel point, aussi, dans la philosophie antique, on trouve des instructions de méditation dans l'expérience. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir instructeur MBSR?
Alors, ce qui m'a amené à être instructeur MBSR, c'est vraiment ce désir de proposer tout ce que m'a apporté la pleine conscience, la méditation et la MBSR. Je ne pouvais pas le garder que pour moi, ce n'est pas possible. Et non, mais vraiment, vraiment. Et c'est ce qui m'a poussé à être instructeur MBSR, et j'espère faire d'autres formations comme la MBCL dans quelques mois, parce que ça, j'ai envie de le proposer pour les paroissiens qui le souhaitent de ma paroisse, mais aussi au-delà, parce que en fait, dans moi, ce que Donc la méditation, la pleine conscience, je la propose, je ne vais pas dire je la transmets, je la propose de deux manières. Il y a dans un cadre purement chrétien, là, ecclésial, où je propose ces méthodes de méditation chrétienne, et aussi je christianise, entre guillemets, certaines méthodes de pleine conscience. Par exemple, je donne un exemple. Se centrer sur le souffle. Et pas seulement se centrer sur le souffle. Dans le mythe de la création, dans un des mythes de la création de l'homme, de la Genèse, Dieu insuffle, quand il crée l'être humain, une haleine de vie. Se centrer sur le souffle observer le souffle, ressentir le souffle, c'est finalement ressentir le don du divin, le don de Dieu. Et c'est une forme de prière. Saint Paul nous dit le corps est le temple de l'Esprit Saint. Le temple, c'est un mot très fort, parce que dans le judaïsme antique, le temple était, en tout cas le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple, était le lieu où résidait la présence divine. Donc de dire que le corps est le temple de l'Esprit, l'Esprit divin, c'est dire l'importance du corps, c'est pas le tombeau de l'âme, pour reprendre peut-être une terminologie de Platon. Et du coup, prendre conscience de mon corps, habiter mon corps, c'est habiter un cadeau, quelque chose qui m'a été donné. C'est aussi une forme de prière.
Ah ouais.
Donc c'est comme ça que je l'amène. Donc ça, de manière chrétienne, je le propose de manière totalement laïque, dans une salle neutre. J'ai créé une association pour cela, et là c'est pour le tout venant. C'est donc, je fais une fois par an un stage MBSR. Chaque jeudi, pendant trois quarts d'heure, il y a un exercice de pleine conscience, soit sur le souffle, soit un scan corporel. Là, je ne fais pas 45 minutes de scan corporel, c'est un peu plus rapide. On se centre sur de la musique ou des sons. Enfin, bon, je propose différentes pratiques. Et c'est pour moi, ça c'est de le proposer de manière totalement laïque, comme est la MBSR, c'est une manière de participer à soulager la souffrance humaine à un tout petit niveau, mais en tout cas à un niveau quand même, parce que des participants me disent « Ah, vraiment, ça fait du bien le jeudi de… » Alors on se pose, voilà, c'est une manière de à mon niveau, de participer à soulager la souffrance. On a une très belle parabole dans l'évangile de Luc, où Jésus raconte l'histoire d'un Samaritain qui soigne un blessé, il désinfecte sa plaie, il met du vin, il met de l'huile pour soulager sa souffrance, il le prend sur sa monture, il le confie à un hôtel, une hôtellerie, il donne deux pièces d'argent, il s'en va, il ne le reverra plus jamais, celui qui l'a. Et je me dis, voilà, ça c'est une manière la plus désintéressée possible, j'espère, de participer à soulager la souffrance sans arrière-pensée.
Parmi les exercices tirés de la pleine conscience, les méditations que tu proposes à tes paroissiens, lesquelles tu penses ont le plus d'impact, ou en tout cas ouvrent un peu à tout ce que tu as décrit?
Alors, l'écho que j'ai, en tout cas, il y a différents échos que je peux avoir en tout cas des paroissiens. Le souffle, sans aucun doute, la marche. Moi, j'ai eu un témoignage absolument extraordinaire d'une participante, donc qui était une paroissienne, et qui me dit que pendant une marche en conscience, pas par pas, elle marchait. Alors, elle racontait qu'elle marchait dans son jardin ou dans un jardin public, ça je me souviens plus. Pareil, elle a eu l'impression que tout s'arrêtait, puis qu'il y avait quelque chose qui se dans la réalité. Mais quelque chose de l'ordre elle qualifiait de grâce. Donc, je crois que finalement, l'exercice, que ce soit le scan corporel, que ce soit la marche en conscience, que ce soit manger en conscience, pareil, moi je suis une paroissienne, m'a dit que c'était, pour elle, c'était extraordinaire de manger en conscience. Je crois que ce sont différents outils. Et après, chacun prend celui qui lui convient, le mieux dans l'instant T. Après, il ou elle pourra en changer.
Est-ce que ces expériences-là, c'est quelque chose que tu partages avec d'autres pasteurs?
Avec certains collègues, on est en groupe. Très peu de collègues, hein, faut dire, intéressés par la méditation. Ça, c'est quelque chose que nous partageons. Puisque ce groupe de méditation chrétienne dont je te parlais, on est trois pasteurs plus une laïque à le faire vivre, ce groupe de méditation. Mais c'est encore quelque chose de peu répandu. Si je disais à un collègue qui est plutôt, on va dire, dans le dogme, et je respecte, hein, totalement, chacun vit sa spiritualité, son chemin spirituel comme il doit le vivre. Si je lui dis, j'ai l'impression que l'herbe était d'un vert plus réel que la réalité, il va me dire, mais il est cinglé, celui-là. Donc ça, c'est pas quelque chose que je médite, ça. Oui, les collègues le savent. Et d'ailleurs, là, par exemple, je suis appelé au mois de janvier par des collègues pasteurs alsaciens pour proposer un atelier de méditation, pour pas seulement des pasteurs, mais aussi des protestants. Donc, c'est, je pense, quelque chose en tout cas, dans une partie de l'Église, son chemin, mais je pense que ce sera pas quelque chose, je pense, qui va être généralisé, et puis c'est comme ça. Mais tu vois, quand je te dis, est-ce que c'est quelque chose que tu partages? J'ai un ami prêtre qui médite, et lui, c'était devant un bambou. Il a eu cette expérience où il avait l'impression que c'était plus réel que réel. Et ça m'a beaucoup amusé parce qu'il m'a dit, je l'ai raconté à des amis, ils m'ont dit que j'étais cinglé, quoi. Donc, il faut en avoir fait, je pense, l'expérience pour voir de quoi on parle, quoi. C'est comme être amoureux, il faut avoir été amoureux pour comprendre ce que c'est. Il n'y a que l'expérience.
C'est beau ce terme de l'amoureux parce que moi, généralement, j'utilise le terme du chocolat.
Ah ouais.
J'explique souvent aux gens qu'on peut avoir lu tous les livres sur le chocolat, depuis le cacao jusqu'à la transformation, les différents types de chocolat. On ne connaîtra vraiment le chocolat qu'une fois qu'on l'a goûté. Et une fois qu'on l'a goûté, c'est difficile de le décrire.
Oui, absolument.
C'est un peu ça. C'est cette expérience, l'expérience même de la méditation, l'expérience d'être présent, de la présence. C'est quelque chose qui est assez difficile à décrire pour quelqu'un qui ne l'a jamais eu.
Ouais.
Frédéric, tu nous as parlé de plusieurs ouvrages qui t'ont inspiré depuis que tu pratiques la pleine conscience. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns? Et aussi, on les mettra en lien sous la vidéo pour que les gens puissent y avoir accès.
Alors, là, je vais parler des ouvrages chrétiens, mais même si des ouvrages bouddhistes m'ont beaucoup inspiré, peut-être quand même rendre justice aux spiritualités orientales. Et un maître qui m'a beaucoup inspiré dans ses ouvrages, c'est Bokhar Rinpoché. Il a écrit deux petits livres très simples sur la méditation et qui sont très très inspirants. Sinon, dans les ouvrages chrétiens, j'en citerai, il y a trois auteurs. D'abord, il y a Benoît Biot. Benoît Biot, donc c'est un moine bénédictin, et il a rencontré des moines bouddhistes zen, et il a intégré la méditation zen dans sa vie spirituelle. Il parle d'une greffe, qui a réussi. Il y a des greffes, des greffes sur des plantes et des arbres qui réussissent, d'autres qui ne réussissent pas. Et là, ça réussit, donc il le partage. Il a écrit de nombreux nombreux ouvrages, mais en tout cas sur la méditation, il a écrit l'Assise en Dieu, où il propose, en s'inspirant du bouddhisme zen, des exercices de méditation. Il raconte son expérience du bouddhisme zen au Japon, je crois que c'est dans Voyage spirituel dans le bouddhisme zen. Donc c'est vraiment quand même intéressant qu'un moine chrétien puisse partager cela.
Il y en a un autre qui avait fait aussi beaucoup là-dessus, c'est Thomas Merton,
Oui, tout à
qui est
fait.
même allé en Inde, qui avait rencontré beaucoup de maîtres, différents maîtres de tradition bouddhiste, et pas seulement de tradition bouddhiste, aussi hindouiste et soufi, et ainsi de suite, qui s'est vraiment été très, très inspiré et touché. Et c'est intéressant de voir qu'il y a certains écrits de Thomas Merton qu'il a fait avant même de rencontrer le bouddhisme. Alors, il faut voir dans sa biographie qu'il avait quand même rencontré la méditation par un maître hindouiste avant de devenir moine chrétien. Et on voit très bien un peu comment il décrit la prière, et c'est très en rapport avec ce que tu as décrit auparavant.
Oui, il y en a plusieurs. C'est dommage, j'ai pas le nom, mais il y en a un autre aussi. Bon, ça me viendra. Il y a sinon le prêtre dont je parlais tout à l'heure, Patrice Gourrier, donc un prêtre en plus qui a fait des études de psychologie. Enfin, c'est quand même pas commun parce que. Et qui a été instructeur MBSR. Bon, il n'est plus malheureusement, mais en tout cas, il a écrit Méditation et paix intérieure. Il s'appuie beaucoup sur les pères du désert et son ouvrage est préfacé par Mathieu Ricard, ce qui est pas banal, quoi,
Et
hein.
ça, c'est le prêtre dont tu parlais tout à l'heure avec qui tu as fait le programme, MBSR. Ok.
Oui, enfin non, j'ai pas fait le programme en 8 semaines avec lui. Lui, c'était des stages de 5 jours.
D'accord, ok.
Il faisait scan corporel, méditation sur le souffle avec 40 minutes d'assise et tout. Mais c'est lui, avec lui, que j'ai découvert la pleine conscience. Et après, j'ai fait le stage de 8 semaines. Et puis, il y a un autre, c'est un pasteur, Nils Fildus, Se goûter un en Dieu. C'est un ouvrage extrêmement intéressant parce qu'il présente une vision du Christ qui est très marquée par le Vedanta. Donc c'est assez original quand même. Et il propose des exercices de méditation. Et je crois qu'il anime en Suisse un centre de méditation. Alors il y a bien sûr la méditation assise, mais aussi des exercices psychocorporels. Donc c'est des ouvrages très intéressants. Et si on s'intéresse à la mystique, Maître Eckhart, ah, il faut lire. Mais alors, comme il est difficilement lisible, il y a Laurent, je crois que c'est Jouvet, pardon, qui a traduit Maître Eckhart, mais en français courant. Parce que sinon, c'est même ses sermons allemands traduits en français, qui sont normalement les sermons les plus simples, sont difficilement. Enfin, il faut les relire et les relire et les relire. Et lui, il a écrit d'abord l'intégrale de ses 180 sermons. C'est un pavé, hein, mais en français courant. Et il y en a un autre, c'est l'essentiel de Maître Eckhart. Là, il y a 10 sermons. Donc, c'est pour vraiment rentrer dans la mystique chrétienne, je trouve que c'est vraiment très intéressant.
Toi, personnellement, quelle méditation tu trouves qui vient de la pleine conscience, de tous ces exercices de pleine conscience dont on a parlé, te touche le plus profondément?
Ce qui me touche le plus profondément, c'est la méditation, c'est l'assise sur le souffle en ressentant tout le corps, ressentir le souffle, pas simplement oui, j'inspire, j'expire, non, vraiment ressentir le souffle et le corps et observer les émotions. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Il y a une expérience. Bon, là, je vais parler hein, d'une expérience personnelle. Hein, au décès de mon père, quand mon père a quitté ce monde, j'étais dans le métro et j'avais des larmes qui me venaient parce que j'étais très, très triste. Et la pleine conscience, là, j'ai appris à accueillir, à observer avec indulgence. Avant, je me serais caché, j'ai de honte. Hein, dans un homme, ça pleure pas. Puis il n'y a pas à montrer ses émotions, il y a pas. Et là, j'ai accueilli, j'ai accepté, j'ai observé. Et ça, c'est la pleine conscience. C'est l'observation des émotions. Donc c'est sans doute un des exercices qui me touche le plus. Avec oui, je te dis l'observation du corps qui respire, ressentir le corps qui respire, et puis l'observation des émotions.
Justement par rapport à la compassion, parce que la compassion, l'amour, c'est quand même quelque chose de très important dans le christianisme. En quoi la pleine conscience, déjà, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton approche de la compassion et de l'amour universel? Et si c'est le cas, de quelle manière?
Ce qui a surtout changé, alors je pense que si j'ai toujours une certaine empathie. Bon, je pense que pour être pasteur, il faut avoir un minimum d'empathie, sinon ce serait mieux de faire autre chose. Mais moi, ce que m'a apporté la compassion et l'autocompassion, c'est une compassion pour soi-même. Vraiment ressentir de la compassion pour moi-même. Ça a été une découverte, vraiment une expérience. Oui, c'était vraiment une expérience. C'est ça que m'a vraiment apporté tout un pan de la pleine conscience. Il y a eu toute une période de ma vie où je voyais essentiellement les zones sombres en moi. Et puis, il y a tout un pan de la tradition chrétienne qui insiste beaucoup sur le péché, sur... donc ça, c'est... Je pense que ça n'aide pas. Hein. Et du coup, cette auto-compassion me fait ressentir cette tendresse pour moi, malgré ces zones d'ombre. Ça, je trouve que c'est une belle expérience. Et aussi à reconnaître, à voir ce qui est beau. Donc, mais vraiment, pas de manière intellectuelle, vraiment le ressentir. Ça a été vraiment, j'en suis qu'au début, mais je crois que c'est tout un chemin. La pleine conscience, bon, le calme mental, la méditation, la pleine conscience, la compassion, les exercices d'autocompassion, c'est un chemin, j'espère, jusqu'au dernier souffle.
Merci Frédéric, on va terminer sur cette jolie phrase. Un chemin jusqu'au dernier souffle. Ça me fait penser, on a une prière comme ça qu'on utilise aussi dans le bouddhisme, dans notre tradition, qui est « Puisse la longueur de ma session de pratique être égale à la longueur de ma vie. » Donc, jusqu'au dernier souffle. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir participé à ces interviews. Et donc, on mettra aussi le lien vers ton association et les ouvrages que tu nous as communiqués.
Ok, super.
Au revoir.
Merci.